Extrait du film des Métamorphoses de Christophe Honoré, si vous voulez l'entendre, et on entre directement dans le sujet.
Qu'est-ce que je dois faire ?
Par rapport à ma femme ?
Non, par rapport à tes histoires, là.
C'est toi qui vois. Tu peux me croire, ou bien me prendre pour un fou. Est-ce que tu as peur ?
Non, j'ai pas peur.
Alors pourquoi te priver de me croire ?
Mais croire à quoi ?
Est-ce que tu as peur ? Croire à quoi ? On va parler aujourd'hui d'une œuvre qui pose peut-être plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Au sommaire de notre book club des classiques, la bibliothèque idéale d'Emmanuel Bayam-Aktam, des métamorphoses d'Ovide aux chimères de Gérard de Nerval. En discussion aujourd'hui avec la traductrice Danielle Robert, qui a notamment traduit les métamorphoses à partir du latin, présenté et annoté l'œuvre d'Ovide chez Actes Sud, disponible dans la collection poche Babel. Première traduction intégrale en vers, respectueuse de sa prosodie. Une version mise en scène aussi début décembre, ce sera au Théâtre de l'Échangeur de Bagnolet, près de Paris. Bonjour à vous, Danielle Robert.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Rebonjour Emmanuel Bayam-Aktam.
Oui, rebonjour.
Rebonjour et bonjour à Pierre Croze, notre partenaire de Babelio. Chaque vendredi, nous faisons se rencontrer nos deux communautés de lecteurs. Bonjour Pierre Croze.
Bonjour Olivia.
Merci beaucoup d'être là. Et nous avons aussi, grâce à Zora Vignier, consulté les auditeurs de France Culture. Nous leur avons posé cette question, pourquoi et comment lire les métamorphoses aujourd'hui ? Comment cette œuvre résonne-t-elle dans notre époque, plus de 2000 ans après son écriture ? Alors, quelque chose d'étonnant, de très agréable, c'est qu'un groupe s'est constitué, le groupe de lecture Bibliopolis, qui a récemment lu le grand classique d'Ovide, qui a choisi de prendre les rênes de la discussion sur Instagram et qui va nous donner, et je vous égrainerai au fil de notre discussion, ses points de vue de lecteurs sur ces métamorphoses d'Ovide. Vous avez fait partie aussi d'un club de lecture, Emmanuel Bayam-Aktam, autour de la recherche de Proust. Quelle expérience ça a été pour vous ?
Alors effectivement, avec quatre amis très chers, qui étaient aussi des collègues de travail, puisque nous enseignons dans le même lycée, on s'est lancé dans la lecture ou la relecture pour certains de La Recherche du Temps Perdu. Et je dois dire, alors d'abord que notre projet a suscité beaucoup de ferveur, alors en nous bien sûr, mais même du côté des gens qui en entendaient parler, comme quoi Proust, qu'on l'ait lu ou pas, ça intéresse. Et ça a été une année merveilleuse parce que lire à plusieurs, ça n'a rien à voir avec l'expérience ordinaire de la lecture, qui est quand même une expérience de grande solitude. Et donc, on a fait ça d'une façon pas du tout scolaire, en trouvant ça et là des choses, en comparant nos impressions. Et depuis, on le fait chaque année, en s'attaquant à chaque fois à des monuments, des œuvres cultes ou des œuvres difficiles, que finalement, on n'arriverait pas à lire tout seul.
Voilà, lire à plusieurs.
Hein. Oui, je le conseille à tous.
Ouais, l'expression que je retiens, Pierre Croze.
Il y a beaucoup sur Babelio de groupes qui sont constitués de lecteurs pour justement s'attaquer à des œuvres que tout seul ils auraient peut-être du mal, des difficultés. Ça permet d'échanger un peu les points de vue, d'aborder plus facilement les œuvres. Notamment sur le Goncourt, on a un groupe qui s'est constitué pour chroniquer tous les Goncourt qui existent depuis la 1903, je crois, et pour attaquer ensemble des œuvres.
Ah oui, ils vont avoir quand même du boulot.
Il y a un peu de lecture.
Et alors, est-ce que malgré les polémiques et les controverses, le nouveau Goncourt fait beaucoup réagir aussi?
Les critiques sont très positives. Sur Babelio, je vous invite à aller regarder. Il y a un peu tout, évidemment, mais il y a une polémique en ce moment au sein du prix Goncourt.
Au sein du jury,
mais les lecteurs ont l'air d'apprécier cette édition.
Le roman de Brigitte Giraud, Goncourt 2022, avec nous, la Médicis 2022, Emmanuel Bayam-Aktam, dont le livre a sûrement aussi été d'ores et déjà ce nouveau roman, La 13e heure chez POL, commenté chez Babelio. Vous nous direz ça dans quelques instants, Pierre Croze. Voilà, on a évoqué l'importance des groupes de lecture, cette relecture que ça permet de discuter des œuvres, et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui avec Les Métamorphoses d'Ovide, qui est votre premier choix, Emmanuel Bayam-Aktam. C'est une œuvre du 1er siècle. Vous dites que vous ne cessez d'y revenir. Pardon. Quelle place elle occupe dans votre imaginaire ?
Alors, comment dire ? Bon, je l'ai lu très jeune, je le relis, je l'ai même enseigné. Alors, j'en fais sûrement une lecture biaisée et anachronique, mais il me semble que Les Métamorphoses d'Ovide, c'est aussi un livre queer. Et c'est aussi un livre antispéciste dans la mesure où on passe avec fluidité du vivant humain au vivant non humain. Des hommes deviennent des oiseaux, des araignées, des arbres résineux. Et il y a aussi des changements de sexe. On l'a vu avec Tirésias, on le voit aussi avec la très belle histoire d'Iphis et Ianthé. Donc, moi qui crains plus que tout la rigidité, la fixité, avec Ovide, j'ai précisément l'inverse.
Oui, vous dites même que tout est métamorphose, le roman est métamorphose. Hein.
Oui, et puis j'ai souvent dit aussi, alors ça peut sembler être une boutade, mais que tous les romans pourraient s'appeler soit la métamorphose, soit les métamorphoses. Mais le roman, c'est ça, hein, ça ne raconte que ça, comment on passe d'un état à l'autre, d'un sentiment à l'autre, comment on grandit, on apprend, on vieillit, on meurt, on s'aime, on se quitte, on se retrouve. Enfin, de toute façon, voilà, la métamorphose, c'est le sujet romanesque par excellence.
La 13e heure, le titre de ce nouveau roman, est un emprunt à Nerval, mais vous êtes aussi si fan d'Ovide que vous lui avez emprunté un de ses allégories. Alexandrin, pour le titre de votre roman « Si tout n'a pas péri avec mon innocence », roman sorti en 2013. Daniel Robert, alors vous êtes prêté à l'exercice très particulier de lectrice qu'est la traduction, c'est-à-dire en portant un regard à la fois, on imagine au début plutôt vierge sur ce texte, mais ensuite extrêmement professionnel, puisque vous avez dû traduire à votre tour les métamorphoses. Vous êtes reparti du texte original, vous êtes reparti du latin.
Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas d'autre moyen.
Sans vous laisser influencer, c'était, pardon ma question, par les traductions précédentes.
Non, parce que elles étaient assez anciennes, la plupart du temps en prose, ce qui ne me convenait pas pour un poème. Je suis pas. Et puis de toute façon, je serais toujours partie du texte original. C'est évident. Que je connaissais depuis. Mon adolescence, parce que déjà au lycée, Ovide a été, avec Catulle, mon poète préféré, latin. Et je l'ai beaucoup aimé.
Catulle, que vous avez également traduit, quelle est la traduction de référence avant la vôtre, Daniel Robert, pour ces métamorphoses d'Ovide? Vous parliez prose, poème, prose, poésie, justement.
Alors, là, vous me posez une colle parce que j'ai un peu oublié ça. Ovide a été traduit au 19e. Je n'ai pas de nom qui me vienne à l'esprit.
Je vous en prie, Emmanuel Bayamaktab en a un, puisqu'elle avait lu Les Métamorphoses d'Ovide avant même votre traduction.
Dans la traduction qui finalement est peut-être la plus connue, à savoir celle de Georges Lafaille, mais dont je suis d'accord avec vous, pour dire qu'elle a peut-être un peu vieilli. Cela dit, Lafaille, c'est pas uniquement prosaïque, il y a quand même des vers blancs, me semble-t-il, dans sa traduction. En tout cas, moi, c'est celle qui m'a permis de connaître Ovide.
Oui, bien sûr, tout le monde, moi aussi d'ailleurs, la mémoire m'est revenue tout d'un coup. Bien sûr, lorsque je l'ai étudié comme élève, c'était dans la traduction de Lafaille qu'on étudiait. Et ensuite, j'ai un peu éliminé ça.
Vous posez la question quand même, Daniel Robert, avant d'en être la traductrice, votre point de vue de lectrice sur les métamorphoses d'Ovide?
C'est un point de vue de lectrice assez passionné parce que je ne cesse pas de revenir au texte et d'y trouver toujours de nouvelles surprises, des découvertes, alors que je l'ai pratiqué pendant une dizaine d'années en tant que traductrice et que on pourrait penser que je l'ai étudié dans tous ses détails. Eh bien, il y a toujours, malgré tout, des éléments qui émergent et qui me font dire « Tiens, ça, je ne l'avais pas vu, c'est vrai. »
Et c'est un bon livre qui, pour vous, se lit bien?
Ah oui, 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 oui. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure en présentant l'émission, du spectacle qui va se dérouler du 1er au 5 décembre à Bagnolet. Et vraiment, c'est une pure merveille. J'ai assisté à ce spectacle à Aix-en-Provence. C'est de toute beauté, ça dure 3 heures. Qu'on ne voit absolument pas passer. Les deux actrices sont splendides. Extrêmement en harmonie l'une avec l'autre, la mise en scène, tout est parfait. Et pour accéder au texte, eh bien, je trouve que c'est une très belle façon pour les auditeurs de France Culture qui pourront y aller. De s'initier comme ça à l'œuvre.
Voilà, entendre ces métamorphoses à voix haute dans votre traduction, Daniel Robert. Voilà donc pour cette date, prochaine date qui a été communiquée, mais la pièce tournera après L'échangeur de Bagnolet. Les métamorphoses d'Ovide, quel était pour vous le genre, Emmanuel Bayamaktam, ou quel est, à quel genre littéraire les rattacher? Est-ce que c'est un récit? Est-ce que c'est une épopée? Est-ce que c'est un roman, puisque tout roman est métamorphose, comme vous nous le disiez?
Alors oui, c'est entre autres une épopée. En tout cas, il y a une réécriture de l'Iliade et de l'Énéide dans les métamorphoses, qui est aussi quelque chose qui m'intéresse chez Ovide, hein, la façon dont il travaille les textes antérieurs. M'intéresse aussi la réception qui en a été faite par la suite. Hein. Montaigne est lecteur d'Ovide, hein, il le lit dès 7-8 ans, mais Calvino aussi, enfin Shakespeare aussi. Enfin, c'est fou à quel point ce texte continue à inspirer. Et j'étais très curieuse de voir la façon dont Daniel Robert avait traduit la fin des métamorphoses, parce qu'il y a ce très bel épilogue qui, moi, à chaque fois me remue, parce que Ovide dit en substance, mais finalement, si les pressentiments des poètes ont quelque sens, ont quelque valeur, voilà, je vivrai. Hein, ça se termine comme ça, les métamorphoses. Je vivrai. Et j'ai regardé rapidement la traduction de Daniel Robert, que je trouve magnifique. Enfin, il a eu la prémonition de sa pérennité, de sa postérité, et c'est très troublant.
Et Daniel Robert, c'est vous qui avez le livre entre les mains,
oui,
qui a traduit ce passage comment ?
Vous voulez que je vous lise l'épilogue ?
Il faut toujours commencer par la fin.
J'ai désormais achevé une œuvre que ni la colère de Jupiter, ni le feu, ni le fer ne pourront abolir, ni l'usure du temps. Le jour de ma mort, qui n'aura prise que sur mon corps, pourra mettre à son gré un terme à l'incertaine durée de ma vie. Le meilleur de moi sera transporté, inaltérable, très haut par-delà les étoiles, et mon nom ne s'effacera pas. Aussi loin que s'étend sur les terres soumises la puissance romaine, je serai lu par tous, reconnu à travers les siècles. Et si les pressentiments des poètes se réalisent, je vivrai. C'est magnifique cette affirmation, cette confiance, en l'influence et en la postérité qu'il aura pu avoir.
Dans une vingtaine de minutes, on retrouvera les incipits de Mathias Sénard, soit les premières phrases, puisqu'on évoque cet épilogue, Daniel Robert. De quoi l'avez-vous investi? Comment cette phrase résonne en vous?
C'est vraiment le point... le sommet de toute l'œuvre. Enfin, il va depuis le tout début où il dit « Mon intention est de parler de formes métamorphosées encore nouveau », il va progressivement nous conduire jusqu'à cet épilogue et à sa foi absolue dans la postérité qui allait faire de lui, qui ferait de lui un des plus grands poètes de l'humanité. Il le savait, il a affirmé comme ça pour finir l'œuvre. Et puis, c'est aussi pour finir sa vie, parce qu'il a terminé l'œuvre en exil.
Mmh. Oui, mais il l'a commencé avant l'exil. Hein. Il l'a peaufiné pendant l'exil, effectivement, mais c'est presque... C'est une œuvre d'avant l'écriture des métamorphoses, pour commencer par le commencement. C'est 7 ans de travail, hein, dans la vie d'Ovide. 15 livres, 12 000 vers, plus de 200 métamorphoses. Comment raconteriez-vous aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent, Daniel Robert, peut-être, quel est le fil rouge de ce grand livre pour vous?
C'est très difficile à définir parce que c'est un livre qui, en apparence, est multiple, part dans tous les sens. En fait, il répond à une grande cohérence, à une structure vraiment très, très réfléchie par Ovide, mais on ne voit ce fil qu'au fur et à mesure de la lecture. Au départ, les récits de ces métamorphoses s'enchaînent et on n'en voit pas vraiment toute la logique. Et puis, en relisant ou en réfléchissant sur chacun de ces récits, on voit toute la logique qui a présidé à l'écriture de l'œuvre.
Et puis, il faut quand même préciser, c'est intéressant, c'est que on parle d'ouvrir sa bibliothèque aujourd'hui, c'est aussi un exercice de réécriture, hein, pour Ovide, puisque les métamorphoses sont une succession de mythes qu'il a imaginés aussi à partir des mythes hellénistiques, hein, Emmanuel Bayamaktam. Ouais, existants.
Bien sûr.
Oui, oui, réécriture de, ben, voilà, d'Homère, de Virgile. Je pense qu'il y a la référence à Pythagore aussi qui est très structurante, même si j'y comprends pas grand-chose. Mais c'est un des fils directeurs du récit. Vous m'avez posé la question du genre et je vous ai répondu rapidement qu'il s'agissait d'une épopée, mais c'est quand même un grand poème. C'est le grand poème du monde.
Oui. Et d'ailleurs, les auditeurs de France Culture qui ont dialogué à travers ce groupe de lecture Bibliopolis saluent la poésie de ce texte et les traductions comme la vôtre, Daniel Robert, qui donne la part belle à la poésie, hein, qui traduit certes le sens des mots, nous disent-ils, mais aussi le rythme du vers. C'est un travail magnifique de concilier la musique du français et du latin. Je me tourne vers vous, Pierre Croze, sur cette question juste des mythes, et on reviendra peut-être sur la forme après, beaucoup de vos lecteurs soulignent le plaisir qu'ils ont eu à découvrir ou à redécouvrir la mythologie à travers ces métamorphoses d'Ovide.
Même ceux qui n'étaient peut-être pas forcément très intéressés par les mythologies et la mythologie grecque se sont intéressés grâce à ce livre. Moi qui ne suis pas trop mythologie, et après avoir déjà lu l'Iliade et l'Odyssée, je peux dire que ce livre m'a transporté et émerveillé par son univers de métamorphose où se croisent êtres humains et Dieu. Quelqu'un d'autre se prend le parti des lecteurs en disant « Oh mais que ce doit être barbant à lire », diront certains, pas encore dégagés sans doute de leur passé scolaire, plus ou moins douloureux. Eh bien non, Les Métamorphoses, c'est un ouvrage si passionnant que du coup le lecteur se voit tenter de se replonger dans la geste homérique et de renouer avec ce pan si vaste de la culture occidentale que trop de personnes veulent de nos jours oublier et ramener dans l'ombre.
Quel mythe a votre préférence, ou Emmanuel Bayamaktam, vous n'allez peut-être pas en choisir un, mais si vous pouviez quand même nous en trouver un ou deux à nous raconter,
oui.
Ceux qui vous ont touché, parce que c'est aussi ça, certains ont plus de correspondance avec ce qu'on est comme lecteur.
Alors évidemment, l'histoire de Térée, Procnée, Philomèle, dans sa cruauté, dans sa folie, me plaît beaucoup. Enfin, c'est, si tout n'a pas péri avec mon innocence, ça vient de cette métamorphose-là. Mais en définitive, j'aime énormément l'histoire de Mira. Mira, la fille qui séduit son père, qui parvient à ses fins, qui couche avec lui, et puis qui s'enfuit, fécondée par lui, et qui en vient quand même à éprouver une forme d'horreur par rapport à cet inceste, et qui réclame aux dieux un châtiment, mais elle peine à trouver le châtiment adéquat parce que elle ne veut pas rester vivante et souiller le monde des vivants humains. Elle ne veut pas non plus souiller le royaume des morts. Et donc, finalement, elle obtient d'être métamorphosée en myrrhe, enfin en l'arbre qui produit la myrrhe. Et ce qui est très intéressant, c'est que elle est enceinte de son père. L'enfant sera Adonis et elle accouche d'Adonis au moment où elle est en train de se rigidifier et de devenir un arbre. Et donc, ça donne lieu à une scène très, très étrange. C'est peut-être ma métamorphose préférée.
Cette petite bête-là, c'est Arachné, une jeune idiote qui tissait des tapisseries très belles. Elle a eu la mauvaise idée de défier Minerve, une fille de Jupiter, elle aussi, spécialiste en broderie. Du coup, ça s'est mal terminé. Enfin, ça s'est terminé, s'est transformé en araignée.
Et toi, t'es qui?
Parce qu'on peut dire aussi que les métamorphoses, Emmanuel Bayamaktam, racontent la vérité, l'identité des êtres dans la métamorphose. C'est peut-être aussi l'autre fil conducteur de ces métamorphoses d'Ovide, de cette grande œuvre. Mais je voulais vous demander, est-ce qu'il y a toujours une morale dans chaque métamorphose d'Ovide, ou une leçon de vie, comme on l'entend à travers celle que vous venez de nous raconter, ou ce dialogue entre Bacchus et Europe?
Ce qui est sûr, c'est que la métamorphose intervient souvent comme une punition, même s'il y a des exceptions, Philémon et Baucis, c'est plutôt une récompense de la longévité de leur amour. Est-ce qu'il y a toujours une morale? Oui, sûrement, mais elle n'est pas du tout assenée de façon didactique. Et oui, évidemment, l'inceste, c'est mal, et ne couchez pas avec votre père, mais je pense que ce serait simplifier à outrance le livre d'Ovide.
De votre côté, Daniel Robert?
Je suis tout à fait d'accord. Et il y a aussi des métamorphoses qui sont demandées par les personnages, qui apparaissent comme une délivrance lorsque ces personnages se trouvent en difficulté. Je pense à un récit que j'aime énormément, qui est celui de Salmacis et Hermaphrodite. Hermaphrodite était un jeune homme, un garçon au départ, fils de Mercure et de Vénus. Il était d'une grande innocence et il a été aperçu par la nymphe Salmacis. Et là, on assiste à une scène de viol. C'est Salmacis qui va tenter de violer Hermaphrodite. Mais ce n'est pas du tout un viol barbare, ni cruel, ni douloureux. C'est raconté par Ovide de manière assez joyeuse, et parce que du point de vue de Salmacis. Mais Hermaphrodite, étant rétif à l'amour, il demande à son père et sa mère de le soustraire aux bras de Salmacis. Et son désir est exaucé.
Et comment ?
Eh bien, Mercure et Vénus font en sorte que les deux corps soient tellement unis qu'ils deviennent une seule personne qui n'est ni homme ni femme.
Voilà.
Qui est donc un hermaphrodite.
Exactement. Et c'est comme Daphné qui, pour ne pas être violée par Apollon, va demander à être métamorphosée et qui le sera, elle, en laurier. Alors, on voit tous ces personnages dont on connaît le nom, qu'on a croisé dans notre scolarité, dans nos lectures plus tard, toutes ces mythologies qui réapparaissent là. Narcisse, Diane, Pygmalion, Daphné, les Éliades, tous ces mythes et parmi eux, certains qui vous ont peut-être plus parlé que d'autres. Qu'en est-il du côté des lecteurs de Babelio, Pierre Croze?
Alors les lecteurs, ils leur déjà Daniel Robert parlait tout à l'heure de la richesse et du fait de toujours trouver des choses différentes dans les différents textes, dans les différentes métamorphoses. C'est vraiment ce qui ressort des critiques, ce qui revient le plus souvent, c'est la richesse des textes, richesse d'images et de tons des métamorphoses. On a fait un livre fondamental pour les arts et la culture jusqu'à nos jours, une source de fascination pour tout amateur de baroque. C'est le livre des merveilles, une multitude d'histoires, de contes, de mythes qui ont irrigué toute la culture occidentale, un grand plaisir de lecture. Il n'y en a pas forcément une qui ressort dans les critiques, qui sort un peu du lot. Certains n'ont pas tout compris, mais on trouvait cette image, ce livre d'une beauté pure. Ouais. Il y a la langue, le texte qui a été très apprécié.
Particulièrement. Alors c'est vrai que certains mythes, nous disent les lecteurs qui ont réagi sur Instagram, sur le compte de Bienvenue au Book Club, certains mythes expriment une universalité d'émotions et peuvent recevoir une interprétation contemporaine, nous dit Jeanne. Le mythe de Daphné pourrait illustrer une histoire de harcèlement sexuel. Daphné aurait pu brandir l'étendard du mouvement MeToo. Elle a trouvé ce lien entre la mythologie et les problématiques contemporaines totalement passionnant, cette idée de cet éclairage qui aussi raconte tant d'années, de siècles plus tard, encore ce que nous vivons aujourd'hui. Comment comprendre ce terme de métamorphose, Emmanuel Bayamangtam? C'est vraiment le passage d'une vie à l'autre.
Alors là, oui.
Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière ce mot?
Mais ce dont nous parlons finalement depuis le début de l'émission, à savoir que y a de la fluidité, il y a du mouvement, il y a nous être vivants devrions être ouverts aux métamorphoses et aux possibles, et trop souvent en définitive de notre propre fait, mais ça relève plutôt d'une construction sociale et culturelle, nous nous laissons rigidifier, enfermer et catégoriser.
Oui, sans penser que de toute façon, le corps est sujet à métamorphose tout au long de la vie. Je veux dire, entre l'enfant et le vieillard, oui, que nous devenons, de toute façon, cette métamorphose a lieu.
Oui, et d'ailleurs, moi, très souvent, je décris ces métamorphoses que sont et la puberté et le grand vieillissement. Enfin, ça m'intéresse, hein, de montrer la façon à la fois tragicomique dont se transforme le corps et le visage.
Daniel Robert, vous avez traduit d'autres écrits, hein, d'Ovide, notamment ses écrits érotiques et ses lettres d'amour, lettres d'exil. Quelle particularité des métamorphoses en termes de style dans l'œuvre d'Ovide?
Alors, c'est une œuvre à part du point de vue de l'écriture et de la versification. C'est le seul ouvrage pour lequel Ovide a adopté l'hexamètre dactylique, qui était le vers de l'épopée, le vers héroïque par excellence. Ensuite, dans les autres recueils, il a choisi un autre type de versification, c'est-à-dire le distique élégiaque, plus approprié à ses propos, qui était le fait de parler d'amour uniquement. Voilà. Mais sinon, on retrouve dans les métamorphoses beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont contenus également dans les autres recueils. Et pour revenir à la question de la qu'est-ce que la métamorphose ? Il y a effectivement l'idée de changement, mais Ovide tient toujours à souligner le fait que c'est un changement à l'intérieur du même. L'être qui change se transforme corporellement, mais c'est toujours lui-même. Il y a toujours ce jeu entre le même et l'autre, entre autre et pareil.
Danielle Robert, vous êtes avec nous à distance du sud de la France où vous habitez, traductrice des métamorphoses d'Ovide à partir du latin. Vous avez réalisé cette traduction il y a quelques années et qu'on peut retrouver aujourd'hui en Babel, hein, chez Actes Sud. Avec nous également la romancière Emmanuelle Bayamaktam qui a choisi les métamorphoses d'Ovide comme étant une pièce centrale de sa bibliothèque qui l'a inspirée comme lectrice et comme romancière. Et puis Pierre Croze de Babelio, vous êtes avec nous, ne bougez pas, il est 13h16 sur France Culture. On va parler d'une autre œuvre qui a compté pour vous, Emmanuelle Bayamaktam, votre deuxième choix. Cette œuvre, on le disait, qui a structuré, charpenté la 13e heure, votre nouveau roman, est un recueil de poèmes, Les Chimères de Gérard de Nerval. C'est un ouvrage en plus qu'on connaît peut-être moins que d'autres grands recueils de poésie et qui nous offre une part de spirituel, une part de souffle divin qu'on peut retrouver aussi dans votre roman. Comment il est entré dans votre vie, Nerval, de lectrice ?
C'est essentiellement le sonnet Artémis hein, qui m'intéressait pour la 13e heure, puisque c'est autour de ce sonnet que j'ai imaginé les messes poétiques de Léni. Sachant qu'Artémis, c'est aussi une figure qui m'intéresse hein, dans la mythologie, parce que c'est la jeune chasseresse, un peu androgyne. Donc, pour moi, Pharah, c'était une jeune Artémis. Alors, Les Chimères, c'est un recueil de 12 sonnets. Artémis étant le sixième, et voilà, je pense, enfin, connaissant un peu Nerval, que ça n'est pas anodin le fait que ce soit finalement le sonnet central. Hein. C'est un sonnet très hermétique, mais comme le sont souvent les sonnets, comme l'est souvent l'écriture de Nerval. Et Les Chimères, si on essaie de trouver là encore un principe d'organisation ou quelque chose qui lui donne un peu sa cohérence, ce recueil, d'une certaine façon, relève de la recherche d'identification. Hein, je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Enfin, il y a quelque chose qui relève de la tentative de dire qui je suis. Et alors j'y avais pas du tout pensé, mais il y a un lien à faire entre les métamorphoses et les chimères. C'est le dernier sonnet des chimères, qui est le moins réussi d'ailleurs, qui s'appelle Vert doré, et qui est dédié à Pythagore, et dans lequel Nerval dit à l'homme, mais voilà, homme, tu penses, mais pourquoi te crois-tu le seul pensant ? Et ce sonnet, c'est une injonction à considérer que derrière l'animal, derrière la plante, il y a une âme. Alors ça, c'est Pythagore. Je crois qu'il va même jusqu'à dire que derrière l'objet inanimé, il y a aussi une âme. Bon, ben ça, c'est la folie de Nerval. Mais en tout cas, finalement, il y a un lien entre les chimères et les métamorphoses.
Il y a peut-être aussi un lien, nous direz-vous, Danielle Robert, entre les métamorphoses et la Divine Comédie de Dante que vous avez également traduit. Et, vous voulez nous en dire un mot tout de suite ?
Oui, bien sûr, très volontiers. Oui, Dante a été extrêmement imprégné des métamorphoses et toute la Divine Comédie porte cette empreinte très nettement. Il fait de Virgile son guide pour le voyage initiatique auquel il nous invite, mais Ovide a, à mes yeux, une place beaucoup plus prégnante, beaucoup plus insistante dans le poème. À chaque instant, Dante nous rappelle une des métamorphoses, un des personnages, et il tire toujours une leçon ou une réflexion du texte d'Ovide.
Nerval était aussi traducteur, hein, Danielle Robert.
Ah oui, traducteur de Faust, bien sûr.
De Faust, de Goethe, entre autres. Est-ce que vous l'avez lu, Nerval ? Est-ce qu'il fait partie de vos lectures ?
Oui, je l'ai lu il y a relativement longtemps. Ce n'est pas une œuvre que j'ai reprise constamment comme je l'ai fait pour Ovide ou pour Dante, mais je l'ai lu, bien sûr.
Et dans votre panthéon des poètes, est-ce qu'il en fait partie ou est-ce qu'il y a d'autres poètes que vous mettez bien au-dessus de lui ?
Il y en a beaucoup que j'aime à égalité. Il en fait partie, c'est certain. C'est certain. Et j'aime aussi beaucoup les poètes dont Emmanuel Bayamaktam s'inspire aussi, c'est-à-dire Baudelaire, Rimbaud, Aragon, qu'elle cite souvent, Éluard. Là, nous avons une communauté, je crois, d'intérêts de lectrices à l'arrière-plan.
Emmanuel Bayamaktam.
J'en suis ravie. Alors c'est vrai que pour moi il y a une espèce de séquence lyrique extraordinaire qui s'ouvre en France avec Hugo, on va dire, pour schématiser, puis qui va se terminer avec Aragon, avec Éluard. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des poèmes antérieurs qui ne soient pas magnifiques. Hein. J'adore Ronsard, j'adore Du Bellay, j'adore Sappho, enfin le peu qui nous est parvenu de Sappho. Mais cette poésie du 19e et de la première partie du 20e, dans son lyrisme, moi, là encore, elle m'imprègne, elle m'inspire, et je ne prive pas de citer Baudelaire, Rimbaud, Nerval, Musset, Verlaine, Aragon, Éluard, Breton, dans La 13e heure et dans mes autres livres.
Alors la poésie, justement, sur Babelio, à votre avis, quel est le recueil Emmanuel Bayamaktam le plus populaire parmi les lecteurs?
Ça devrait être Les Fleurs du Mal.
Tout à fait.
Oui, mais c'est normal. Enfin, on ne peut pas ne pas lire Les Fleurs du Mal.
Et c'est dommage pour Les Chimères de Nerval, qui a que 100 lecteurs et 9 critiques. Elles sont très positives. Moi, j'aime énormément Nerval.
Sitôt après cette émission, il y en aura une explosion. Vous allez voir. Vous allez devoir gérer l'afflux de commentaires.
On appelle les auditeurs à publier leurs critiques et à lire déjà Gérard de Nerval. Et Aurélia, moi, c'est mon préféré de toute l'œuvre de Nerval. Et alors, effectivement, le recueil le plus populaire, c'est Les Fleurs du Mal. Les lecteurs ont évidemment quasiment tous intégralement aimé, malgré le caractère très sombre, évidemment, des poèmes et des thèmes abordés, d'une simple charogne en putréfaction jusqu'à une description du mode de vie des hiboux, des peintures de Delacroix jusqu'à la courbe des hanches de femmes dont il est tombé amoureux. Le poète ne fait pas que rendre compte des choses et de la condition humaine, il sait autant rendre esthétique la laideur elle-même que rendre grâce à des beautés suprêmes, allant aussi jusqu'à disséquer des concepts abstraits tels que la peur ou le temps.
Sitôt l'émission terminée, hein, parce que si je dis sitôt après l'émission, peut-être la prof de français que vous êtes, Emmanuel Bayamaktam, va me taper sur les doigts. Non, vous n'êtes pas une puriste de la langue. Est-ce qu'on peut avoir avec vous aussi, Pierre Creuse, les commentaires, les points de vue de lecteurs de Babelio sur la 13e heure de Emmanuel Bayamaktam, qui vient donc de recevoir le prix Médicis 2022?
Certains lecteurs se sont un peu interrogés sur la morale du livre. Est-ce que ce serait de rester un esprit libre au fil de son œuvre, tour à tour solaire et crépusculaire? Emmanuel Bayamaktam nous adresse encore et toujours le même message. Cultivez vos singularités, tâchez d'être un esprit libre, même si le prix à payer est la solitude. Cependant, même si son énergie, sa force de conviction m'ont paru intactes, j'ai décelé, affleurant ça et là, un profond découragement.
Ah! Est-ce que ça fait partie des questions qu'on vous pose dans vos rencontres en librairie notamment, ou en bibliothèque avec
des lecteurs? Si je suis découragée, il se trouve, je vous l'ai dit, finalement, ce livre, il a été écrit dans des conditions que nous avons tous subies, hein, le deuxième confinement, le début de la guerre, etc. Donc évidemment que ce sont des choses qui passent, en tout cas pour moi, dans l'écriture. Hein. Évidemment que j'ai plus de motifs d'inquiétude aujourd'hui que je n'en avais il y a 30 ans. Mais non, je ne suis pas découragée, ne serait-ce que parce que je continue à croire au collectif et aussi, je pense que la beauté a des vertus et qu'elles peuvent s'exercer sur nous si nous arrivons à lui faire une place.
Emmanuel Bayamaktam, vous avez sous les yeux les Métamorphoses d'Ovide dans la traduction de Daniel Robert. Est-ce que vous pouvez nous trouver l'Incipit
de
ces Métamorphoses?
Merveilleuse.
Parce qu'on va pas tarder à devoir rejoindre notre camarade Mathias Sénard pour ses Incipit de la semaine. C'est tous les vendredis, mais on vous écoute d'abord.
Bon, c'était un quatrain, c'est très bref. Mon intention est de parler des formes métamorphosées, encore nouveaux. Dieu, qui avait pris part à ces transformations, inspirait mon entreprise et accompagnait ce poème qui, des origines du monde jusqu'à nos jours, est éternel. Donc toujours cette confiance en lui-même et en son texte.
Camper le décor, l'esprit des lieux. Souvent, les écrivains profitent de l'incipit pour répondre. L'incipit, c'est la première phrase d'un livre, pour répondre à la fameuse question du « où », Mathias Sénard.
C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar, nous apprend Gustave Flaubert au début de Salammbô, comme chacun sait. La précision du lieu de l'action est un des incipit les plus usuels. On aurait presque envie de chercher là, dans ce lieu, une vérité sur le roman en lui-même. Certes, avec le lieu, c'est un décor que l'on plante. Dans l'exemple de Flaubert, un décor qui nous apparaît d'abord comme phonétique. Mégara, Carthage, Amilcar, trois noms qui sonnent, qui nous susurrent des lointains dans l'espace et dans le temps. Mais il y a le mot « faubourg », que j'associe plus aujourd'hui à Paris ou à Lyon qu'à Carthage. Une banlieue, tout simplement. C'était à Mégara, banlieue de Carthage, dirait-on aujourd'hui, si l'on devait traduire Flaubert en français du XXe siècle. Et même, c'était à Mégara, quartier sensible de Carthage, en français du XXIe. Que nous apprend en réalité cette première phrase? Que cela était. Que nous nous trouvons, in medias res anticas, dans un jardin. Le rideau s'ouvre et le décor est là. Le spectacle peut commencer. Second exemple. La Duchesse de Langeais d'Honoré de Balzac, publiée sous ce titre en 1839. Il existe dans une ville espagnole, située sur une île de la Méditerranée, un couvent de carmélites déchaussées, où la règle de l'ordre instituée par Sainte Thérèse s'est conservée dans la rigueur primitive de la Réformation due à cette illustre femme. Il existe, nous dit-on, ce couvent. Même si les romans de Balzac s'ouvrent plutôt de préférence sur une action, la Duchesse de Langeais commence par le lieu. Mais un lieu qui vaut à lui seul action, un lieu habité, un lieu de fantasmes et de secrets, un couvent. Balzac joue lui aussi de l'exotisme, une île espagnole, tant qu'à faire, cela ne coûte rien, faisons voyager le lecteur, envoyons-le en Andalousie, où les couvents et les romans sont plus cousus de fantasmes qu'ailleurs. Balzac nous livre aussi un nom propre, Thérèse. Ici la sainte, mais qui est aussi le nom, sœur Thérèse, on l'apprendra très vite, sous lequel se cache, dans le monastère susdit, Madame de Langeais. Cette description de lieu contient donc en germe l'action. Puisque nous parlons d'Espagne, voici un troisième exemple. Dans une bourgade de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait, il n'y a pas longtemps, un hidalgo. De ceux qui ont lance au râtelier, rondache antique, bidet maigre et lévrier de chasse. Vous avez reconnu l'incipit de Don Quichotte de Miguel de Cervantes, traduit par Louis Viardot. Dans une bourgade de la Manche dont je ne veux pas me rappeler le nom. Voilà une bien singulière façon de débuter un roman. Et pourquoi, je vous prie, pourquoi ne souhaitez-vous pas vous souvenir du toponyme en question? Mais parce que justement, le lieu est fort important dans un roman. Or, Don Quichotte de la Manche, par cette imprécision, introduit à la fois un narrateur et cette distance ironique qui sera l'espace dans lequel va naître le romanesque et une vague de romans qui, passant par Laurence Sterne, Denis Diderot ou James Joyce, nous submerge de noms de lieux jusqu'à aujourd'hui.
Merci Mathias Sénard et merci à nos invités Daniel Robert, Emmanuel Bayamaktam et Pierre Cros. Aujourd'hui, à la console, Anthony Thomasson. Je vous donne rendez-vous lundi avec le romancier britannique Jonathan Coe, puis un book club BD avec Zep et Emmanuel Guibert.